18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver chers amis auditeurs. Nous sommes ensemble, ensemble pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Ce soir au menu, au sommaire, je vous propose de vous embarquer, eh bien, dans plusieurs éléments. D'abord, nous allons retrouver notre invité, Thiaba Bruni, la porte-parole et la vice-présidente du Conseil représentatif des associations noires de France. Ça s'appelle le CRAN et elle viendra parler d'Omar Sy et la polémique. Et notamment parce que, souvenez-vous, elle avait interpellé le président de la République. Cet échange, justement, on va en parler ce soir, ici même, dans Les Informés. Et puis ensuite, j'ouvrirai l'antenne, parce que ça fait beaucoup. Je voudrais échanger avec vous, chers amis auditeurs, partout en France, sur l'inflation, sur tout est cher en fait, la vie qui tout explose. Et tout le monde est en colère. En gros, j'ai envie de connaître votre opinion et venir partager cela avec vous en direct au 0153 48 3000 à partir de 18h20, justement pour parler avec vous sur ces questions-là. Comment allons-nous nous en sortir ? Parce que ça risque d'être compliqué, chers amis auditeurs, hein, quand même, dans les mois à venir. Paraît-il que, eh bien, jusqu'au mois de mars, eh bien, la situation va être terrible. Terrible. L'inflation va rester très, très, très forte. Alors, il va y avoir les prix à la consommation qui augmentent de plus en plus. L'électricité, le gaz, l'alimentation générale, bref, tout. Clochette ! Ah ! C'est chaud, les amis, c'est chaud. 18h30, c'est le docteur qui viendra nous livrer son regard, justement, sur son édito, son billet d'humeur, comme chaque mercredi à 18h30 précisément. Et puis tout de suite après, à 18h40, eh bien, nous aurons le face-à-face. Et c'est un ancien leader des Gilets jaunes qui sera avec nous ce soir, Thierry-Paul Valette, mais également aussi un porte-parole dans des associations engagées, Gamal Abina. Deux points de vue différents, certes, mais aussi deux points de vue. Et on parlera notamment des sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui, la réforme des retraites, de l'urgence, du cri d'alarme des boulangers, mais également aussi d'Omar Sy, sur de nouveau cette polémique, et enfin, sur ce samedi 7 janvier, est-ce le grand retour des Gilets jaunes ? Voilà le programme que je vous propose, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et pour démarrer cette interview, et pour démarrer cette émission Les Informés, l'interview du jour.
Les Informés, les informés. L'interview.
L'interview du jour, c'est avec, je vais l'accueillir, vous le savez, vous la connaissez, elle est la vice-présidente du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Elle est aussi, non seulement vice-présidente, mais porte-parole du CRAN. Elle s'appelle Thiaba Bruni. Bonjour Madame Thiaba Bruni, bonjour Madame la vice-présidente.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, j'ai vu que vous aviez notamment passé un coup de gueule un peu partout, mais pour quelle raison d'ailleurs, concernant la polémique, vous savez, et notamment les déclarations d'Omar Sy, cet acteur vedette, hein, lorsqu'il fait cette déclaration quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint lorsqu'il fait référence à la guerre en Ukraine.
Oui,
vous dites qu'il a raison.
Moi, je pense qu'il a totalement raison et qu'il va falloir arrêter à un moment donné de jouer les hypocrites. Nous savons très
pourquoi
bien.
Pourquoi il a raison, Madame la vice-présidente ? Pourquoi il a raison ?
Alors, il a raison parce qu'on nous dit que on accueille beaucoup plus d'Ukrainiens, par exemple, que des réfugiés politiques ou des réfugiés de guerre qui viennent d'Afrique, parce qu'il y a une proximité géographique. Mmh. Moi, je dis c'est faux, puisque Alger est beaucoup plus proche de la France, par exemple, que de l'Ukraine. Mmh. Donc, il n'y a pas cette proximité géographique. La proximité linguistique, elle n'existe pas. Dans la plupart des pays, des anciennes colonies françaises, on parle le français, donc il y a cette proximité linguistique. On parle le français en Algérie, on parle le français au Sénégal. On ne peut pas parler non plus spécialement de proximité, je dirais, culturelle. On connaît beaucoup mieux la France, les traditions françaises dans les anciennes colonies. Proximité religieuse. En Ukraine, ce sont en effet des chrétiens, mais ce sont des orthodoxes. Alors que si on prend des pays tels que le Congo, ben ils pratiquent la même religion, hein, ce sont des catholiques.
Ah oui,
donc,
oui, c'est vrai.
Quand on nous parle de proximité, en fait, on se rend compte qu'il n'y en a pas. Il y a beaucoup plus de proximité entre un Algérien, un Marocain, un Sénégalais avec un Français qu'un Ukrainien. Mmh. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné...
Vous, ça vous exaspère. Clairement, ça vous met en colère. C'est incompréhensible pour vous, le fait que Omar Sy ne soit pas compris. Hein. Madame la vice-présidente.
Oui, parce qu'il dit tout simplement une vérité. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on a l'Ocean Viking, avec simplement, il y avait une centaine de réfugiés sur ce bateau, il y avait 230 migrants sur ce bateau, ça a fait polémique, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut les recevoir ou non? Et puis, d'un autre côté, on va recevoir en quelques mois plus de 100 000 réfugiés ukrainiens.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ce deux poids deux mesures?
Alors, ce deux poids deux mesures, Thiaba Bruni, justement, parlons-en. Est-ce que le continent africain, justement, on n'a pas de considération, justement, pour ce, oui, pour ce continent? Je vous pose simplement la question.
Bien sûr, on a, les Français, de manière générale, n'ont pas de considération pour les Africains, alors qu'ils ont une histoire commune, que ces Africains se sont battus pour la France. Moi, je prends le cas de mes grands-parents. Ils se sont battus pour la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la Première Guerre mondiale.
C'est le film qui sort aujourd'hui, justement, Les Tirailleurs, voilà, dans Marcy.
Tout à fait. Donc, ils ont servi de chair à canon. Et puis, il n'y a aucune considération. Il y a plutôt du mépris, je dirais, de la part de la France par rapport aux tirailleurs sénégalais.
Alors justement, nous allons mettre les pieds dans le plat. Si vous le permettez, Thiaba Bruni, Madame la vice-présidente. Vous aviez, il y a quelques mois, interpellé le chef de l'État, Emmanuel Macron, justement, sur la question des tirailleurs africains. Nous allons écouter cet extrait, premier extrait d'ailleurs, c'est le vôtre, la question que vous interpellez le chef de l'État, Emmanuel Macron. Écoutons.
Alors, oui.
Sur la question des tirailleurs sénégalais, puisque je reviens du Sénégal, et que des familles m'ont remis un long plaidoyer et des dossiers, considérant que l'attitude de la France à leur égard équivaut à du mépris. Leurs grands-parents ou leurs parents se sont battus aux côtés de la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Ils demandent à ce que cet engagement soit reconnu au nom de la justice, au nom de la vérité historique et également au nom de la dignité et de l'honneur des Africains. Donc je voudrais savoir, voilà, moi j'ai les dossiers avec moi, je voudrais savoir si l'engagement de ces tirailleurs sénégalais sera un jour reconnu et le sacrifice qu'ils ont fait sera un jour reconnu par la France. Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Madame la vice-présidente du CRAN, Madame Thiaba Bruni, c'était dans quel cadre, justement? Il y avait un événement, hein, ça se passait dans le sud de la France.
Tout à fait, c'était lors du sommet Afrique-France. Donc j'en ai profité pour interpeller le président Emmanuel Macron sur la question des tirailleurs sénégalais, parce qu'il faut savoir que bon nombre d'entre eux n'ont même pas reçu leur solde. Et je rappelle quand même l'épisode du massacre de Tiaroy qui a eu lieu en 1944. C'est-à-dire que ces tirailleurs sénégalais qui venaient juste d'être renvoyés dans leur pays se sont manifestés pour obtenir leur solde et finalement, pour seule réponse.
En parlant de réponse, Madame justement Bruni, Madame Thiaba Bruni, voilà ce que vous répond sur place d'ailleurs le chef de l'État Emmanuel Macron. Écoutons sa réponse et ensuite après je vous poserai la question à savoir est-ce que évidemment depuis vous avez eu des nouvelles, un retour concernant votre requête. Écoutons le chef de l'État.
Nous l'assumons et nous l'assumons au nom de chaque famille et donc elles seront restaurées dans leur dignité si elle a été bafouée. Mais la parole officielle de la France a été, en ma personne, affirmée et j'ai reconnu justement ce rôle et cette dette. Et nous avons même lancé des initiatives pour que des maires puissent rebaptiser des rues au nom de ces combattants. Ah oui. Au nom de ces combattants. Et donc cette part d'Afrique dont je parlais, c'est aussi une part de liberté. Ce sont des femmes et des hommes qui sont venus sauver la France lors de ce débarquement. Et je veux ici maintenant rendre hommage aussi à toutes les mémoires. Durant la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelait alors l'armée noire.
La réponse est longue, mais on aura compris évidemment la teneur de sa réponse. Est-ce que vous avez eu un retour du chef de l'État Emmanuel Macron, Madame la vice-présidente du CRAN?
Aucun retour. Ça fait plus d'un an, aucun retour. Et je l'ai relancé à de nombreuses reprises, parce que dans sa réponse, il reconnaît la dette de la France envers les tirailleurs sénégalais. Je n'ai eu aucune réponse. Voilà, donc voilà, c'est une forme de mépris et c'est tout à fait ce que disait Omar Sy il y a quelques jours. Voilà, il y a un deux poids deux mesures.
Que comptez-vous faire, Madame la vice-présidente du CRAN, Ça fait un an que vous bataillez, un an que vous l'interpellez, que vous le relancez. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Comment comptez-vous vous y prendre, justement?
Ben, il va falloir que nous organisions une mobilisation, parce que je trouve que cette situation est inacceptable. On ne peut pas, dans un cas, accueillir, 100 000 Ukrainiens. Et pourtant, je veux dire qu'on doit accueillir les migrants de quelques pays qu'ils viennent. Ça, c'est tout à fait normal. Et je me réjouis qu'on accueille des Ukrainiens. Mais par contre, il ne faut pas oublier la dette que la France a envers les Africains. Et jusqu'à présent, cette dette, elle n'est toujours pas soldée. Et ça, je trouve que c'est une aberration. Et quand un président prend des engagements comme Emmanuel Macron l'a fait, il faut qu'il s'y tienne.
Vous avez échangé avec l'acteur en Massie. Vous l'avez déjà reçu au CRAN. Vous avez déjà... discuter sur ce sujet.
J'ai pris contact. Enfin, je tente de le rencontrer justement pour qu'on puisse échanger sur cette question qui est primordiale. Il faut que ce problème soit réglé de manière définitive. Je veux dire que les sacrifices des Africains pour la France ont été immenses. On ne peut pas simplement nommer des rues au nom d'anciens combattants en se disant qu'on est quitte. On a donné des noms de rue à ces anciens combattants et la France a réglé sa dette. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible, vous dites. Donc, on l'aura compris, Madame la vice-présidente, justement, vous comptez, vous donc, organiser des événements, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Je compte organiser des événements. Alors, surtout, vu la réaction, vu la polémique que les propos d'Omar Sy ont suscité, je trouve que c'est d'une injustice incroyable, parce qu'on le sait très bien qu'il y a un deux poids deux mesures et qu'on préfère accueillir en France des Européens, même s'il n'y a pas d'histoire commune, que des Africains qui ont versé leur sang pour la France.
Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous écoutent partout en France, justement, aux auditeurs qui vous écoutent ce soir dans Les Informés?
Ben, je leur dis de relire l'histoire de la France. Parce que, en fait, le problème est là, c'est que beaucoup de Français ne savent pas quel a été le sacrifice des Africains pour la France, qu'ils considéraient comme leur pays. Mais finalement, on leur a mal, ils ont mal été récompensés et voilà, on en est à une situation qui est inacceptable.
Merci d'avoir été avec nous, Thiaba Bruni. Vous êtes la porte-parole, mais également la vice-présidente du CRAN. Le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires de France. Merci, Madame la vice-présidente.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Mais je vous en prie, à très bientôt. Nous allons ouvrir l'antenne au 01-53-48-3000, justement. Vous savez quoi? On va en parler. Est-ce que vous considérez comme, justement, la vice-présidente du CRAN? Je vous sollicite, les chers amis auditeurs. Là, tout de suite, maintenant, le standard est ouvert et Anthony vous attend au
01-53-48-3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vous donne la parole parce que c'est le moment. Et Anthony vous attend au standard. Partout en France, je voudrais évidemment vous entendre livrer votre opinion. Est-ce que vous partagez le même point de vue que la vice-présidente du CRAN, à savoir deux poids, deux mesures? Quand c'est des Africains, ce n'est pas le même traitement lorsqu'évidemment, quand on parle du reste d'un autre continent, notamment, elle faisait référence aux Ukrainiens qui sont en pleine guerre de l'Ukraine. Est-ce que vous partagez son point de vue? Est-ce que vous avez le sentiment vous-même que l'Afrique n'est pas considérée du tout, que le traitement n'est pas le même, qu'il y a ce fameux deux poids deux mesures dont elle fait référence, Thiaba Bruni? 01-53-48-3000. De second sujet aussi que je vous propose, où va-t-on? Est-ce que vous pensez, vous avez le sentiment, est-ce que vous captez qu'il y a une colère qui est palpable? Parce que, tout simplement, EDF, ça flambe. Le gaz, ça monte. L'alimentation, il y a une hausse exorbitante. L'essence, ça explose. Bref, est-ce que vous sentez, est-ce que vous captez dans l'air, justement, cette colère? Je voudrais qu'on en parle aussi. Voilà ces deux sujets que je vous soumets et je vous attends. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après. 01-53-48-3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h21, merci d'être avec nous, si vous venez de nous retrouver, c'est parti, c'est votre moment d'espace de liberté d'expression.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et on vous attend au standard. Anthony, précisément, vous attend au standard au 01 53 48 3000. Deux sujets que je vous propose, chers amis. Deux. Le premier, c'est la polémique concernant Omar Sy. Et notamment, la vice-présidente, notre invitée, la vice-présidente du CRAN, donc, qui vient de confirmer qu'il y avait deux poids deux mesures lorsqu'on faisait référence à l'Afrique. Et elle faisait référence notamment à la guerre en Ukraine, donc le pays de l'Ukraine. Elle disait bien qu'effectivement, lorsque le continent africain est concerné, eh bien, il y a deux poids deux mesures. Que le continent africain pas du tout considéré. Est-ce que vous partagez ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 01 53 48 3000. Et puis, second sujet, c'est cette inflation. Et puis, vous savez quoi? C'est ce quotidien qui nous ronge en permanence. Qu'est-ce que vous captez? Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous palpez, vous, justement, comme moi, un peu comme moi, qu'il y a une espèce de colère qui est montante, puisque, vous savez, tous les prix explosent. On parle quand même du gaz, de l'électricité, du panier de course. Alors, le panier de course, je ne vous en parle même pas. Le panier de course, il a complètement explosé au mois de décembre. Hein. On est passé à 14,6% d'inflation quand même, hein, en un an. Hein. Le panier de course, je disais, l'essence, etc., etc. Je ne vais pas vous énumérer toute la liste. Et à côté de ça, vous avez les salaires qui n'augmentent pas. Ça, c'est problématique, effectivement. Et est-ce que vous sentez, un peu comme moi, qu'il y a une colère qui est en train de monter? 01 53 48 3000. Eh ben, on attend les premiers auditeurs, Anthony. N'est-ce pas?
Ben, je sais pas ce que vous faites, réveillez-vous.
On y va.
Faites-vous péter le standard.
01 53 48 3000, chers amis auditeurs. Quel est le premier ou la première qui, donc, va avoir le plaisir de venir partager ces deux premiers sujets? Donc, 01 53 48 3000, nous vous attendons tout de suite. Tout de suite, nous vous attendons à 01 53 48 3000. Je ne bouge pas d'ici, Anthony. Non, moi je ne fais ni de pause ni rien. Je ne bouge pas. Je sais qu'ils sont nombreux parce que, comme chaque soir, ils sont très nombreux. Oui, il faut juste, vous savez quoi, les titiller un peu.
Les motiver.
Pas les motiver, non. Ils sont motivés, nos auditeurs. Il faut les titiller. Il faut aller les chercher. Il faut les prendre par la main. Venez, chers amis auditeurs. Oui. Alors, venez converser, justement, et nous livrer votre point de vue. 01 53 48 3000. Parce que moi, je vous avoue qu'entre nous, moi, je suis un peu quand même... Moi, je suis de nature optimiste. Mais la vérité, c'est que ça m'inquiète, toute cette ambiance délétère, ce climat délétère, cette ambiance anxiogène. Moi, je vous avoue, je vous dis la vérité, je le pense, hein, je suis pas démago quand je vous dis ça. Je sens, je capte un truc, qu'il y a quelque chose d'explosif dans l'air. Et qu'il y a, je sais pas, je vois les gens en colère, je vois les gens qui ne vivent plus, ils survivent. Je vois les gens aussi notamment qui parlent de ce fameux deux poids deux mesures. Bref, ça fait beaucoup. Allez, premier auditeur à réagir. Mohamed de Creil. Bonsoir Mohamed.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Mohamed?
Je suis artisan à mon compte.
Ah ben bah justement, parlons-en. C'est pas compliqué tout ça?
Ben c'est compliqué, comme vous venez de dire, par rapport à l'inflation de tout ce qui nous entoure. Expliquer aux clients que le prix des matériaux a augmenté, ça ils arrivent à le comprendre, mais expliquer aux clients que se déplacer sur le chantier, ça me coûte deux fois plus cher que l'année dernière, ils ont du mal à le comprendre.
Compliqué quand même, vous artisan par exemple, ouais. Comment vous essayez de jongler justement avec les différentes charges, votre quotidien, la trésorerie, c'est compliqué j'imagine, non?
C'est compliqué, ouais. Bah, on est obligé nous aussi d'augmenter les prix. Et ça, comme je vous dis, le client, il a du mal à le comprendre. Il pense qu'on veut se mettre les trucs poche. Après, bon, quand on lui explique, ils arrivent un temps soit peu à le comprendre, mais pas forcément tout le temps. Mmh. Pas sur l'arrivée, parce que franchement, au bout du compte, quand on fait notre tarif et que je reviens sur une tâche sur laquelle j'ai été, par exemple, pendant 40 jours travailler et que je reviens sur mon taux horaire, mon taux journalier, je reviens limite comme si j'étais employé dans une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire?
En gros, c'est chaud.
En gros, c'est chaud, ouais. En gros, c'est chaud.
Donc, vous Après, captez quand même qu'il y a quelque chose, quand même, qu'il y a une colère, quand même.
Ah, il y a une colère, mais il y a même une colère au sein de notre propre quotidien à nous-mêmes, quoi. Quand je vais et que je mets 167 euros de gasoil pour mettre le plein de ma camionnette, là, à ce moment-là, je commence à me dire, ouais, non, ça pique.
Ah bah oui. Ça, oui, ça pique, je vous le confirme, ça pique beaucoup même.
Bah ouais, donc du coup, ça et tout ce qui est additionné après derrière, bah parce que on a 3 enfants à charge, on est 5 dans la maison, bah forcément tout ça, ça consomme. Et ne parlons pas de l'inflation du gaz, parce que, pour vous dire, l'année d'avant, donc en 2021, j'ai eu la chance, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, je crois que c'est la seule fois, d'avoir une régularisation de Total Energy qui m'ont régularisé, m'ont rendu une 100aine d'euros.
Ouais.
Donc c'était il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, quoi.
Ouais.
Et ben l'année dernière, j'ai pris 1300 euros de régularisation. J'ai dû payer.
Mohamed, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous savez, ceux qui étaient en colère il y a encore quelques années et qui sont en colère et qui ont décidé d'investir les rues de France, c'est les Gilets jaunes, c'est le grand retour. Justement, Thierry-Paul Valette, l'un de ces grands leaders des Gilets jaunes, il est sur le plateau avec nous. Thierry-Paul Valette, bonsoir.
Bonsoir Adil et merci de me recevoir.
Bonne année. Vous entendez le témoignage de Mohamed, artisan?
Oui, je l'entends et je suis navré.
Tirez le micro bien devant vous, ouais.
Navré pour Ahmed.
Ouais.
Vraiment pour Ahmed, mais
Mohamed, ouais.
Mohamed, malheureusement, c'est le témoignage de dizaines, de centaines de.
Et il dit 3 enfants à charge.
De Français.
Il dit que c'est compliqué, il est obligé de monter ses tarifs, que les clients ne le comprennent pas.
Ben oui.
Et qu'en gros, il est obligé de composer avec tout ça.
Ben bien sûr, il doit composer avec tout ça. Finalement, il doit se débrouiller, il doit composer tout seul parce que le gouvernement n'apporte aucune réponse. Et que l'on soit professionnel ou particulier, on a tous les mêmes contraintes. Maintenant, ce sont des contraintes qui ne sont plus liées à la problématique de remplir le frigo, parce que le frigo, on peut plus le remplir depuis longtemps.
Non, mais il parlait de son panier de courses.
Oui, non, il nous envoie une
C'est impossible de faire
les
courses.
Qu'est-ce que vous dites, Mohamed?
Je dis qu'il nous a envoyé une cacahuète de 100 euros, comme si on était un Saint-Jean-Cage. 100 euros, je vais faire quoi avec 100 euros?
100 euros, c'est pin-up, c'est la poudre de plein papa. 100 euros, ça s'évapore.
Je voudrais qu'on en parle à Thierry-Paul Valette ce soir. Je veux vraiment qu'on en parle parce que paraît-il que la situation, elle est quand même préoccupante. Merci Mohamed pour votre témoignage. Hein. Très grave.
Merci de nous donner une tribune en tout cas.
Mais la tribune, elle est là tous les soirs. Tous les soirs, c'est votre tribune.
Non, mais je vous écoute sur mon retour à chaque fois.
Voilà.
C'est gentil. Merci à Adil et merci à tous les intervenants. Merci à toute
l'équipe. C'est moi qui vous remercie, Mohamed. C'est moi
qui vous remercie. Au revoir et meilleurs vœux malgré tout.
Absolument. Ne lâchons rien, comme on dit. Ne lâchons rien et bonne année.
Courage, Mohamed.
Beaucoup d'appels. Thierry-Paul Valette, énormément. Vous savez, écoutez là, justement, tous les soirs, c'est comme ça.
C'est de la détresse.
Vous voulez venir? Non, mais justement, Nicole de Limoges. Du côté de Limoges, Nicole, bonsoir.
Bonsoir,
bienvenue. Alors, vous aussi, vous captez la même chose?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas, je dois me tromper de sujet. Moi, je vous appelais à propos d'Omar Sy.
Ah oui, j'ai proposé les deux sujets. Parlons de Omar Sy. Allez-y, je vous écoute.
Alors, moi, Omar Sy, je n'ai rien contre lui, absolument pas. Mais je trouve un peu ridicule ce qu'il dit, parce que c'est un gars qui gagne énormément d'argent, qui a une superbe maison aux États-Unis, voire plus, certainement. Et pourquoi ne prend-il pas des émigrés chez lui, ou je ne sais pas moi, ou faire quelque chose pour son pays d'origine?
Je crois qu'il fait quelque chose déjà pour son pays d'origine.
Ouais,
vous savez,
il doit pas faire beaucoup comparativement à ce qu'il
gagne. Je vais vous le dire pour avoir fouillé et creusé un peu. Oui. Il intervient auprès des associations et notamment auprès des gamins, des quartiers, etc. dans les villages.
Il a donné beaucoup d'argent,
mais il a décidé lui-même de se dire, je reste discret sur ce sujet. Il a décidé de ne pas communiquer sur ce sujet.
Je suis d'accord. Mais critiquer les Français, je ne suis pas d'accord, parce qu'ils devraient comprendre que, étant donné qu'il est africain, peut-être que des pays d'Afrique pourraient aider en priorité avant que ce soit les pays européens, ne croyez-vous pas? Alors que les pays européens aident. Ouais.
Vous comprenez ça, Attendez. J'interpelle Thierry-Paul Valette, l'un des leaders des Gilets jaunes. Thierry-Paul Valette, vous entendez, Nicole?
J'entends ce que...
Gilets jaunes.
Ouais. Attendez, il va vous répondre sur le gilet, sur le sujet.
Voilà,
Thierry-Paul Valette.
J'ai envie de dire que Omar Sy, sans être son avocat, est un citoyen français qui vit en France ou qui vit à l'étranger.
Et je pense
à ce titre qu'on se bat assez pour la démocratie, la liberté de penser, qu'il a le droit de donner son opinion.
Moi aussi.
Voilà.
Et moi, je suis pour aider les pays ukrainiens, parce que c'est un peuple qui est proche de chez nous. C'est tout près de la Pologne, donc la Pologne, c'est près de la France. Et je ne vois pas forcément qu'on est plus enclin, même si on n'oublie pas les Africains bretons, mais on est plus enclin de pencher pour un pays qui est tout proche de chez nous, qui a quoi, à 2 heures d'avion, 3 heures, Donc voilà, c'est ça. Ce
oui, parce qu'on. Mais alors, pardonnez-moi, Thierry Poisson. Vous avez entendu, tout à l'heure notre invité, la vice-présidente du CRAN, qui disait Alger, c'est aussi à 2 heures de Paris.
Et alors? Mais Alger. Et
Alger est un mot français. C'est français, Alger.
Alger, ils n'ont pas de problème en Algérie, que je sache.
Non, mais elle parlait de deux points. Non, mais elle disait qu'il y avait deux poids, deux mesures quand ils font référence justement au continent africain.
Pourquoi les pays nord-africains n'êtes pas les pays africains? Vous nous dites partout que vous êtes frères. Nous, on ne dit pas qu'on est frères. On est frères avec personne. On est frères quand on a un frère dans la famille, les parents font un enfant. On a un
j'adore
frère.
Nicole.
Mais oui, mais c'est ça. Mais je trouve ça d'un ridicule.
Mais vous exprimez votre opinion. Oui, Thierry Paul Vallet.
J'entends Nicole, mais derrière ce que vous dites, je sens des relents, moi, qui me dérangent un petit peu.
Mais
écoutez, Nicole, moi, je veux bien
ça.
Vous répondre. Mais si vous me coupez la parole, je pourrais pas vous répondre.
Je sens
quelques relents qui me dérangent parce que, après tout, que ces personnes, certaines personnes s'appellent entre elles, frères, je vois pas en quoi ça doit interférer dans le débat, dans la problématique qui est celle d'une part de la guerre en Ukraine.
Laissez-le répondre, Nicole, s'il vous plaît. Laissez-le répondre.
Les problématiques qui sont en Afrique. Alors maintenant, se sent proche des Ukrainiens parce que.
Et le continent, rappelons-le, c'est une ancienne colonie aussi. Hein.
Bah exactement. Totalement.
Évidemment, je ne vais pas rappeler l'histoire, Nicole. Hein.
Maintenant, de toute façon, l'Afrique, on aide l'Afrique sur leur sol, mais il y a l'immigration, il y a des mouvements migratoires qui sont liés à la guerre, qui sont liés à l'économie, et encore qui sont liés maintenant à des conditions climatiques. Et ça, il faut comprendre que ce n'est que le début. Donc, votre pilule, ma chère Nicole, il va falloir l'avaler de manière un peu plus
capsule, pareil.
Et puis j'ai juste envie de vous dire, on a accueilli sur le sol français des centaines de milliers d'Ukrainiens, et parce qu'il y a 200 immigrés dans un bateau qui arrive sur les côtes françaises, tout le monde crie au loup.
J'ai envie de dire que
accueillir, c'est une chose, mais on peut pas non plus choisir en fonction d'une nationalité ou d'une couleur de peau, parce que dans le débat, la réalité, c'est un petit peu ça.
Ce n'est pas du tout une histoire de couleur de peau. Pourquoi? Alors répondez-moi, pourquoi est-ce que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ne font rien pour l'Afrique?
Ah bah non, au contraire, vous ne connaissez pas le sujet, ils font énormément.
Vous n'en parlez jamais, vous n'écoutez pas régulièrement.
Si on en parle, le Maroc, c'est
pas quand même tellement frère. Hein.
Mais écoutez,
je parle des gouvernements.
Non, mais là, vous parlez de politique, si vous dites qu'ils font pour l'Afrique, si, justement. Si.
Ouais, on n'en parle pas beaucoup, ils doivent pas faire énormément.
Nicole, je peux vous poser une question, chère Nicole?
Oui.
Vous votez pour qui? Marine Le Pen? Éric Zemmour?
Ah, sûrement pas.
Ah, très bien, très bonne nouvelle.
Je suis droite, moi. Alors, vous voyez, je votais Sarkozy, moi, à l'époque. Alors, vous voyez que je suis loin de ce que vous pouvez penser.
Après, elle vote qui elle veut.
Non, je vous pose juste une question pour savoir, pour essayer de comprendre un peu vos orientations.
Voilà,
c'est pas pour vous juger, Nicole. On a le droit de penser et de...
Alors, je vous explique pourquoi.
Voilà.
Parce que j'ai trouvé, par hasard, il y a quelques mois, sur la radio... Radio Beurre. Alors, comment on vous appelez? Vanessa, je crois.
Oui.
Elle fait une émission, mais si elle pouvait bouffer du français à chaque soirée, elle le ferait. Hein. Alors, elle nomme pas, mais on voit bien que c'est nous qui sommes concernés.
Je sais pas si...
Adressez-vous comme vous, parce que je vous entends, vous n'êtes pas du tout comme ça.
Non, mais
vous
écoutez-moi. Moi, je connais Vanessa, je connais quand même son ADN, je connais... Adressez-vous, appelez-la Vanessa ce soir à 21h.
Non.
Appelez-la, discutez avec
aussi,
elle.
Elle est ouverte, mais elle est très agressive.
Ouais. Non, ouais. Franchement, non. Anthony, son réalisateur, me dit non.
Il est très gentil, lui.
Ah, c'est gentil, mais Vanessa n'est pas du tout agressive. Elle est au contraire quelqu'un très posé.
Oui. Elle est agressive quand on l'est avec elle.
Bien sûr.
Si on est agressive avec elle, elle est agressive.
Tout
effectivement, je vous le confirme.
Ce n'est pas le débat de ce soir, en tous les cas.
Allez lui parler, moi je pense qu'il faut l'appeler, il faut échanger avec elle.
Je pourrais parler avec vous, vous êtes quelqu'un de charmant, parce que je vous ai souvent entendu. Moi, ce n'est pas une histoire de nationalité.
Mais Vanessa, elle est aussi charmante que moi, je vous rassure.
Non, je vous assure que non.
Je vous le dis. Je vous embrasse, Nicole, à très bientôt. Beaucoup d'appels au 0153. À bientôt, Nicole. Hein. 0153483000. Oh là là, j'ai pris beaucoup de retard. Oui, aïe, aïe, le Quad 9. Oh, pub. Et on se retrouve avec le Quad 9, mais avec Cyrielle du 91. Avec Waza Danière et tous les autres au 0153483000. Et puis Thierry Paul Vallet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h 18h40, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, dans une poignée de minutes, nous allons retrouver le face-à-face. Mais en attendant, vous savez, on est inondé de coups de fil. Inondé vraiment, comme chaque soir d'ailleurs. Anthony, vous le confirmez. Anthony, que ton standard, il est...
C'est du sport.
C'est du sport. 01 53 48 3000, continuez de nous appeler. Allez, tout de suite, avec beaucoup de retard, je m'en excuse auprès du docteur Majid Soussine. C'est parti, tout de suite, le quoi de neuf.
Les informés, le quoi de neuf.
Et ensuite, après, j'irai retrouver Cyrielle du 91. Bonsoir, mon cher docteur Majid Soussine.
Bonsoir, mon cher Anil.
D'abord, mille excuses, parce que j'ai beaucoup de retard dans mon conducteur. Je devais vous prendre à 18h30, puis je me suis fait avoir. Ah, tout simplement. C'est ça, le direct. Voyez-vous. Alors, vous avez décidé pour cette première, au démarrer de l'année 2023, de nous faire, comme à votre habitude, eh bien, un pudding. Un pudding, une espèce de cocktail sucré-salé qui va nous embarquer dans une actualité concernant la colère, l'inflation, la hausse des prix. Bref, on vous écoute. À vous la parole.
Eh ben, d'abord, mon cher Adil, on commence par les vœux de bonne année à tous. Et c'est vraiment marrant, comme j'ai l'impression de faire une blague un peu perverse en formulant ces vœux. Quand on a vraiment... Eh ben oui. Quand on a l'impression qu'en souhaitant une bonne année 2023...
Pardon, docteur, allez-y.
On a vraiment l'impression qu'en souhaitant une bonne année 2023, c'est un peu comme si on disait à un condamné qui a la tête sous la guillotine, à tout à l'heure, on se voit à l'apéro. C'est un peu le même genre de blague que fait un maire qui célèbre un mariage en disant « Soyez heureux » avec un petit sourire.
Mais... Il est bon, le temps, docteur. Moi, je suis fan de vous, hein, vous savez.
Écoutez, mon cœur est déjà pris. Mais pourquoi...
Il est fou, ce docteur. Oh là là. Allez-y, docteur.
Mais pourquoi ce pessimisme, direz-vous, Adil?
Oui.
Eh bien, il faut dire quand même que j'ai été secoué par deux, trois choses. Tout d'abord, j'ai l'impression qu'il va falloir que je demande au Qatar de bien vouloir me corrompre si je veux continuer à survivre avec cette inflation. Par exemple, mon petit café racisé, comme dirait Sandrine Rousseau, c'est-à-dire mon petit noir, est passé à 1,40€ au 2 janvier.
Oui.
Le litre d'essence qui me permet de rouler en mini a pris 15 centimes. Je me demande comment vous faites, Adil, avec votre Porsche. Et je ne vous parle pas du timbre rouge qui a disparu.
Ah, ça, c'est vrai.
Car
ça
la
va
Poste...
vous manquer.
Ah bah oui, la Poste nous propose désormais... C'est à vous que ça va manquer.
Oh,
car la Poste nous propose désormais de le remplacer par une E-lettre que l'on déposera sur un serveur de la Poste, qu'imprimera un facteur avant de le mettre sous enveloppe et de le livrer. Je me demande, Adil, comment vous allez faire pour protéger le secret de vos amourettes à qui vous écrivez des lettres dans un style strauss-kahnien.
Ah, il est terrible. Il est pas fort, hein.
Et encore, Adil, je me demande comment vont faire les Français pour envoyer des lettres anonymes à la commandant Tour quand Zemmour aura pris le pouvoir.
Ouais.
Comment feront-ils pour dénoncer ces soi-disant bourgeois, bien intégrés, soi-disant républicains, qui en fait n'en ont rien à foutre de la République? Comment, dites-moi, Adil, comment, dites-moi? Heureusement que sur ces news, on nous prévient, qu'on va leur montrer et qu'on va leur apprendre. C'est marrant, mon cher Adil, parce qu'encore une fois, je me suis trompé. Car moi, j'avais l'impression qu'en fait, c'était plutôt la République qui n'avait pas vraiment à faire des issues de la diversité, que n'était pas si gêné que ça par les discriminations, le plafond de verre, les contrôles aux faciès, etc., etc.
Ouais.
En tout cas, moi, Adil, je me méfie quand même. J'apprends le morse pour communiquer, je creuse un bunker, je stocke de la semoule pour mon couscous quotidien et des bougies.
Mais c'est vrai.
On ne sait jamais des fois que 2023 nous fasse regretter 2022.
Ça, c'est vrai. Bravo. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Vraiment bravo, docteur. D'abord, vous savez quoi? Il y a deux questions qui reviennent régulièrement. On me dit, mais le docteur Majid Soussine, c'est un vrai docteur? Ben oui, dites-le, mon cher docteur, vous êtes un vrai docteur. On me pose souvent la question.
Je suis aussi médecin que Cheikh Bamba à Barbès.
Ben voilà, il est médecin, chers amis.
Retour d'affection.
Et qu'est-ce que vous dites?
Retour d'affection, je veux le réussite aux examens, je fais tout. Hein.
Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi...
Ah, c'est fini, ça,
d'accord, oui, c'est vrai. Le SAMU, vous êtes au SAMU, vous êtes aussi aux Invalides chez les militaires, notamment.
Tout à fait.
Et dites-moi, mon cher docteur Majid Soussine, qu'est-ce que vous dites? Vous savez, vraiment, je vous le dis clairement, hein, c'est pas pour vous flatter ou quoi que ce soit. Vous avez beaucoup, énormément de fans qui vous écoutent et qui vous suivent. Et qu'est-ce que vous leur dites ce soir?
Bah, je les remercie de prêter attention aux exubérations d'un pauvre esprit dérangé comme le mien.
Non mais c'est vrai, vous avez beaucoup, beaucoup de fans, hein. Vraiment, et bravo à vous. Et j'espère que cette année 2023, évidemment, elle sera aussi riche que 2022. Merci, docteur Majid Soussine.
À votre service. Bonne soirée.
Et au plaisir. Et au plaisir.
À bientôt, au revoir.
Alors, on nous appelle régulièrement, vous savez, de Oran, d'Alger, mais également aussi de Marrakech ou encore Casati. On va aller avant de retrouver Cyriel, Ahmed de Casablanca, au Maroc. Direction Casa. Ahmed, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute, mon cher Ahmed.
Merci beaucoup.
Vous êtes de Casablanca.
Et meilleurs vœux de Casablanca au Maroc.
C'est bien, ça nous fait plaisir. On a des.
Je vous présente mes meilleurs vœux aussi, mais je n'ai pas cette facilité d'écriture qu'a votre docteur.
Il est bon, le docteur, hein, vous avez vu ça. Hein.
Je me contente juste de dire mes meilleurs vœux.
Ah, il est bon, hein. Il est bon. Vous êtes fan, vous aussi?
Alors, pour ne pas occuper trop d'écran, le micro, je voulais rappeler à Madame Nicole.
Oui.
Que si Nicole, voilà. Nos reproches, quand on se dit nous tous des frères, ce n'est que c'est un problème de langue. Mm. Parce qu'en France, quand on va interpeller quelqu'un, on lui dit monsieur, madame, au Maroc, on lui dit en arabe, on lui dit al-akh, al-ukht. C'est un problème de langue.
Ah, Nicole, mais vous écoute, c'est bien. Elle vous écoute, Nicole.
Mais j'espère. Autre chose. On ne dit rien parce que notre culture arabo-islamo-africaine nous recommande la discrétion. Mm. Alors, je vais lui dire ce que le Maroc a fait. Mm. Le Maroc a fait en pleine crise du Covid, a pris sur sa dotation de vaccins et les a donnés à des pays africains, mm. gratuitement.
Voilà, Nicole.
Alors que lui, il les a payés très cher. Mm. Il les a donnés gratuitement. Il distribue du phosphate à certains pays africains gratuitement. Mm. Le Maroc, tous les ans, reconnaît, régularise des Africains du subsaharien qui sont rentrés illégalement au Maroc. Il les reconnaît, il les régularise, il leur donne des documents de séjour. Mieux que ça, il est en train de les inscrire sur la liste sociale des Marocains pour qu'ils profitent de la sécurité sociale, à savoir l'assurance obligatoire.
Oui.
Dans ce cas-là, cette dame doit d'abord être au courant avant de dire quoi que ce soit.
En plus,
le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ce n'est pas la France. Mm. Ce n'est pas le même nombre de milliards. Ce n'est pas la même puissance économique. Mais malgré tout, avec le peu dont nous disposons, nous faisons quelque chose. Mais il ne faut pas qu'on nous le reproche. Oui. Faut reconnaître, il faut avoir le courage de dire,
mon cher Ahmed,
dans l'affaire de l'Ukraine, on s'est comporté comme, je ne peux pas dire de mauvais mots ou de gros mots, la France s'est très mal comportée. Mm. Pas seulement la France, l'Europe. Bon.
Ahmed, voilà. Vous avez apporté effectivement une réponse par une question qui a été soulevée par Nicole, justement tout à l'heure, de Limoges. Merci de cette réponse, merci pour votre intervention, évidemment, qu'elle mérite d'être claire, et merci de nous avoir appelé depuis Casablanca, depuis le Maroc. À très bientôt. Restez fidèles, justement. J'avais dit à Cyriel que je devais l'apprendre, Inch'Allah, bien sûr. Cyriel, du 91. Quelle ville du 91, Cyriel?
Angerville.
Angerville. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Cyriel?
Je suis famille d'accueil pour personnes âgées et handicapées.
Eh bien, on vous écoute. Bienvenue. Thierry Paul Valette est avec nous ce soir. Gabelle Abilet vous écoute aussi.
Et meilleurs vœux pour l'année 2023.
Absolument. Bonne année, Cyrielle. Bonne année.
Et puis, pour Madame Nicole, je peux lui dire que si ça lui fait mal au cœur, les Ukrainiens, elle n'a qu'à les accueillir chez elle.
Mmh. Oh. Bon.
Ouais. Bon. Voilà. Bon. Moi, ça fait par rapport à l'inflation.
Oui, dites-moi.
Famille d'accueil. On a des salaires très très bas.
Oui.
Le caddie de cette semaine, on a vraiment du mal.
Oui.
Le prix du repas pour l'accueil, il est vraiment minable.
Non, mais la hausse du panier, vous savez, il est monté de 14,6% en moyenne dans le pays. Hein. Soit 13 euros, c'est beaucoup. Oui. Hein. C'est beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Beaucoup trop, on parle du paquet de farine, on parle des steaks, on parle du surgelé, on parle du panier hygiénique, on parle de tout, tout a explosé, des pâtes, le riz, tout a explosé.
Tout à fait. Et nous, les familles d'accueil, on les paye à 3 euros le repas.
Combien ?
3 euros.
3 euros ? Oui.
3 euros de repas pour l'accueillir, qu'on accueille chez nous. Donc, avec 3 euros, c'est même pas un repas du McDo. Hein. Il est à 7 euros le repas du McDo.
Oui, oui, c'est vrai.
Voilà. Et quand on demande une augmentation, il nous dit, ben non, c'est le social. Hein. C'est comme ça et c'est pas autrement.
Oui, oui. Donc, vous battez dans votre quotidien, justement.
On se bat toutes. Je parle au nom de toutes les accueillantes familiales qui ont ce souci.
Justement, qu'est-ce que vous lancez comme message ce soir?
Un message que c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça.
Vous êtes d'accord avec moi, ma chère Cyrielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous captez cette colère? Est-ce que vous captez que les gens sont en galère?
Oui. Ils sont, on n'arrête pas de tirer les sonnettes d'alarme, mais on a l'impression qu'on n'est pas.
Oh, je vous ai perdu, Cyrielle. Bon, voilà, elle avait quelques problèmes de connexion. Mais... Thierry-Paul Valette et Gamal Abina. Thierry-Paul Valette, avant de lancer le face-à-face, qu'est-ce que vous vouliez dire?
C'est intéressant ce que dit Cyrielle, son témoignage, parce que finalement, tout le monde est concerné et ça touche aussi la vie de tous les jours, le panier. Bientôt, on n'aura plus besoin d'un panier pour aller faire ses courses, on prendra juste ses poches, on n'aura plus les moyens de rien.
Ouais.
Maintenant, moi j'ai vu les Champs-Élysées, je souhaitais à bonne année, comme disait le docteur, oui, ce serait cynique, j'ai vu près de 2 millions de personnes sur les Champs-Élysées. Pour aller fêter quoi, finalement? Une année 2023 encore plus funeste que l'année 2022. Donc, maintenant, on ne va pas rester en colère comme ça. Il faut transformer l'essai.
On va en parler. Comme j'ai pris beaucoup de retard, justement, je voudrais le rattraper. 18h52, précisément. Le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Et vous continuez à nous appeler au 01 53 48 3000. Thierry-Paul Valette, l'ancien leader des Gilets jaunes, justement nous allons en parler, reste avec nous. Gamal Abina que je reçois sur le plateau. Bonsoir Gamal Abina.
Bonsoir.
Porte-parole notamment de l'association, rappelez-le-nous.
Mouvement des droits civiques, MDC.
MDC, merci d'être avec nous, parlez bien dans le micro. Tiens, relais, il faut le relever, voilà.
Micro,
absolument, non, vous le relevez, vous le redressez, ça. Voilà, comme ça. Bien devant la bouche.
C'est bon, là.
Vous connaissez quand même la radio, vous êtes un professionnel quand même. Allez messieurs, tout de suite, nous allons démarrer avec ce sujet, justement, vous savez quoi? Eh bien le social, le retour des gilets jaunes. On parle d'inflation, on parle de panier de course avec les auditeurs. Le retour des gilets jaunes, c'est ce samedi. Alors, est-ce que ce samedi va être marqué par le grand retour des gilets jaunes qui appelle à manifester? Je voudrais donner la parole parce qu'il y a une contestation. C'est le retour des contestations, c'est le retour de la contestation. Ça y est, Thierry-Paul Valette?
Bien évidemment, je veux dire, tout est réuni et tout est mis en place pour que ce soit explosif et qu'il y ait non plus un grondement social, mais des mouvements citoyens qui s'expriment dans la rue et de manière qui va être quand même assez fort. Tout a été mis en place. C'est de la responsabilité du gouvernement, c'est de la responsabilité d'Emmanuel Macron. Il n'a apporté aucune solution et aucune réponse au mouvement des Gilets jaunes. Ils n'ont pas su protéger aussi les Français les plus démunis pendant la crise sociale. Et aujourd'hui, alors que les Français ont un genou, voire le deuxième genou à terre, qu'est-ce qu'on veut nous imposer ? La réforme des retraites dans un contexte social qui est quand même sans précédent et à coup de 49-3. Donc c'est complètement inadmissible. Alors bien évidemment, tout est explosif et le retour des Gilets jaunes, j'ai envie de dire, ce n'est pas un retour des Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes ont toujours été là et présents. Simplement, qu'est-ce qui va s'agréger aux Gilets jaunes? Ça va être le mécontentement de toutes les catégories socio-professionnelles.
Vous le sentez ça, comme les auditeurs le disent tout à l'heure? Vous sentez qu'il y a une colère là qui est palpable? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre un virage.
Évidemment, oui. On le voit, je veux dire, les médecins sont en grève, les boulangers n'ont plus les moyens de payer leur facture d'électricité.
Les restaurateurs.
Mais bien évidemment, pendant l'hiver, les zéros SDF à la rue que voulait Emmanuel Macron, il y en avait encore beaucoup plus que jamais. Il y a l'inflation, le prix augmente, bientôt ça va être l'eau, l'électricité, l'essence, c'est plus possible, c'est intenable.
Et les salaires qui n'augmentent guère.
Les salaires, ils ne vont pas augmenter. Et alors là, on nous reprend les fameux 100 euros sur l'essence, qui va servir à quoi? Qui va servir à rien au final, parce qu'on n'a même plus les moyens après de pouvoir payer l'assurance, de payer les factures de voitures, de réparation. Non, voilà, on, le problème c'est qu'on a un président Emmanuel Macron qui, quand il est rentré dans son second quinquennat, nous a dit à la De Gaulle, je vous ai entendu, etc. Mais rien de ça, c'est faux, il est dans un déni total, déni de démocratie, parce qu'il y a l'utilisation à outrance du 49 3 pour imposer sa réforme des retraites dans un contexte où les gens sont pris à la gorge, ont un genou à terre. Donc maintenant, c'est même plus question des gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes, bien sûr, mais aussi l'ensemble des citoyens. C'est maintenant qu'il faut dire quelque chose. C'est
alors on va en parler. Justement, Gamal Abina, je voudrais vous entendre, Gamal Abina.
Bah, simplement, j'ai discuté avec David
Levinsky. Vous sentez la colère
de oui, j'ai discuté avec l'avocat justement qui faisait partie des gilets jaunes, David Levinsky, qui dit
qui intervient ici le vendredi.
Oui, donc il a le même sentiment. Alors, il faut être très clair sur un point parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et pas dites. La première, c'est que cette crise est internationale, on l'a compris, mais elle est mal gérée. C'est-à-dire qu'on pourrait faire en sorte de ne pas écraser les artisans qui commencent à s'agréger autour d'une colère sociale. On parle des boulangers, on va en reparler certainement dans quelques minutes. La plupart des gens sont étouffés. Quand vous étouffez les gens et que vous touchez, non plus au porte-monnaie, c'était déjà le cas avant, mais vous touchez à la capacité de pouvoir se nourrir, aux besoins primaires, hein. À partir de là, vous arrivez sur un mouvement insurrectionnel potentiel. On parle des gilets jaunes.
Très bien.
C'est un mouvement de masse qui avait anticipé ce qui pouvait arriver. Ils avaient compris qu'avec l'augmentation du prix de l'énergie, donc leur réduction de pouvoir d'achat, ils allaient être fragilisés. Les gilets jaunes, c'est pas n'importe quoi. C'est des travailleurs, pour la plupart d'entre eux, c'est vrai, qui ont agrégé autour d'eux d'autres personnes qui étaient fragiles, mais qui avaient anticipé qu'il allait y avoir des problèmes. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a peur de l'idée de se dire qu'ils vont, samedi donc, manifester? C'est parce que ce qui fait peur au gouvernement, c'est que quand il y a une manifestation d'un syndicat, elle est cadrée. Le syndicat donne un mot d'ordre, il a son SO, son service d'ordre, et en règle générale, il cadre les manifestations, ce qui fait que ça ne dérape jamais. Les syndicalistes, en règle générale, composent avec le gouvernement et sont dans le consensus, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ça commence à craquer.
Ils sont plus crédibles, les syndicats. Ah bah c'est ce qui se dit.
Ils sont plus entendus maintenant.
La seule alternative, c'est ce que dit Thierry-Paul Valette.
C'est pour ça que la CFDT, aujourd'hui, commence à se radicaliser parce qu'elle sent bien que sa base syndicale ne la suit plus. On sent bien aussi qu'il y a des mouvements qui sont agrégés aux gilets jaunes, comme les Black Blocs, qu'on a beaucoup décrié. Ce sont des anticapitalistes primaires, ça va pas plus loin que ça. Ce sont pas des casseurs. Ils attaquent uniquement les institutions qu'ils considèrent comme étant le capitalisme, à savoir les banques et d'autres institutions riches.
Ils s'attaquent au capitalisme, c'est clair. Voilà, donc, et ils le disent clairement.
Et c'est pas le propre du mouvement des gilets jaunes, la problématique des Black Blocs. Maintenant, on le sait, contrairement à il y a 3 ans, vous voulez nous le mettre en
justement, on voulait décrédibiliser en utilisant ce phénomène qui est parfaitement compris.
Ça marque le grand retour des gilets jaunes, Gamal Abina, ce samedi 7 janvier, justement.
Oui, pour plusieurs éléments, parce qu'il fait bon, étonnamment, il fait doux.
Il y a un peu de soleil, c'est vrai.
Déjà un facteur qui est assez extraordinaire, inattendu, et donc ça dit des choses sur la température. Ensuite, et surtout parce que les raisons d'être en colère sont beaucoup plus graves que celles d'été il y a 3 ans. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est pour ça que je parle anticipé. Ils ont anticipé un mouvement.
Je poserai la question, justement, est-ce que c'est les mêmes revendications qu'il y a 3 ans? Vous-même, vous avez participé.
Elles sont tout à fait aujourd'hui. Ouais. On est plus loin.
On est plus loin encore.
Aujourd'hui, oui, parce que maintenant, il y a des corps de métier qui ne
manifestent. Je vous donne la parole, Gamal Abina.
Juste pour finir, il y a des corps de métier qui ne manifestent jamais. Les boulangers manifestants, on ne les voit pas le manifester. C'est eux qui donnent le pain au peuple. Et la symbolique du boulanger qui ne peut plus donner le pain au peuple parce qu'il ne peut même plus le produire. Vous imaginez que la Révolution française est partie avec le peuple veut du pain.
Veut du pain.
Il faut se poser des bonnes questions.
Parce que l'histoire de la baguette, justement. Tout à fait, c'est comme ça qu'a commencé.
Le pain blanc, le fameux pain blanc que le peuple voulait, le pain des rois.
C'est comme ça qu'a démarré la Révolution.
Tout à fait. Et donc maintenant, je pense qu'ils vont pas seulement les gilets jaunes parce que. Ce mouvement qui était déjà très très aimé par la population française, on l'a oublié, ils avaient une adhésion à 70-80%. Il va être encore plus aimé parce que tout le monde est impacté aujourd'hui sur un mouvement qui avait compris ce qui allait se passer.
Thierry-Paul Valette, pas les mêmes du tout, les mêmes revendications, pas du tout comme vient de nous le dire Gamal Abina. Aujourd'hui, c'est bien pire, comme le dit Gamal Abina.
Bien sûr, c'est pire, la situation est pire, mais... Finalement, pas les mêmes revendications.
Il y a un peu de ça.
C'est quand même dans l'ensemble à peu près les mêmes revendications. Simplement, elles sont beaucoup plus fortes. Tout à fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fortes.
À quoi peut-on s'attendre ce samedi ?
À des gens qui sont en colère, à des gens qui veulent exprimer leur colère. Et j'ai envie de dire... C'est même pas la peine d'entendre maintenant de débats sur les plateaux de télé. Oh, c'est des gens qui veulent juste être entendus. Non. Ça fait... 3 ans qui sont entendus, on le sait, tout le monde est au courant. Maintenant, il faut des réponses, maintenant, il faut du concret, maintenant, il faut de l'action. La problématique de l'essence, alors, c'est pas une crise internationale. Oui, on est touché, on est impacté par la crise internationale, par l'Ukraine et un tas d'autres choses. Mais en France, on a des leviers, on a des moyens, il faut les utiliser. La réforme des retraites, elle pouvait attendre. L'usage intempestif du 49-3, c'est antidémocratique, ça pouvait attendre. Parce que ça coupe le. Parce que ça, c'est antiparlementaire, ça coupe le dialogue avec les parlementaires. L'essence, on peut mettre un gel sur le prix du carburant. Et l'électricité, c'est exactement. Exactement la même chose. On a des moyens d'agir et de compenser. Mais sauf qu'on a un gouvernement qui fait toujours la politique de la sourde oreille et qui n'écoute pas. Alors oui, maintenant, toutes les conditions sont réunies samedi pour qu'il y ait c'est triste à dire, j'aime pas dire, mais un mouvement insurrectionnel, il faut en passer par là, parce que ce qui s'est passé il y a 3 ans...
Ce sera beaucoup plus important qu'il y a 3 ans ou pas, le mouvement justement dont vous parlez.
Sur un numérique, mais sur un plan de la colère,
sur un plan de la colère, ça va être tout autant explosif, si c'est plus, si ce n'est plus explosif. Moi, c'est pas un appel au désordre et à la violence que je fais.
Non, on peut pas le faire de toute façon à la radio.
C'est la réalité, c'est la réalité. Et il y a beaucoup de gens, dans l'esprit des gens, c'est ça. Et aussi, on l'a vu malheureusement, les simples manifestations où les gens viennent là exprimer leur ras-le-bol, leur mécontentement, ce n'est pas suffisant parce qu'on a un président qui en a que faire. Voilà. Et c'est terrible à dire, mais c'est que quand il y a des confrontations, quand ça commence à craquer de partout, qu'on commence à se dire, ah ouais, là quand même, on est peut-être...
Donc le climat social, la grogne sociale, vous la captez, et le climat social est en train de prendre forme. C'est ça.
Ça fissure de partout.
Si une vieille dame me dit, il y a 2 jours à la boulangerie, qu'elle n'arrive plus à payer son pain, et si on sait, on va parler de boulangerie ou pas? Est-ce qu'on va parler?
Mais sur là, tout de suite après, si vous voulez.
Voilà, donc c'est important parce que qu'est-ce qui se passe? Le phénomène boulangerie, c'est quoi? Des boulangers qui sont quand même le cœur.
Bah parlons-en, tiens, mettons, allez, la boulangerie. Française. Avec l'appel de justement le. Voilà. Et l'appel à l'aide des boulangers.
Le peuple veut du pain, le slogan de la Révolution, c'est le cœur de la nation française. C'est-à-dire que la boulangerie, la baguette, la fameuse baguette, c'est français.
Inscrite à l'UNESCO maintenant.
Tout à fait. C'est dire à quel point cette symbolique de la baguette, qui est vraiment l'archétype même de le béret, la baguette quasiment, c'est le produit de la France. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les boulangers ne peuvent plus. Alors, je donne un chiffre très rapide pour que les gens comprennent à quel point c'est devenu grave. Ils payaient en moyenne 1 800 € d'énergie par mois. Ils sont passés à 12 000 €. C'est ça le chiffre. Ils ont en plus la double peine parce que non seulement l'énergie est excessivement chère et on leur a donné 20% d'aide, donc c'est ridicule, ça ne compense absolument pas l'explosion des coûts de l'énergie, x10 quasiment, mais surtout, ils ont en plus à devoir affronter l'augmentation du blé, de la farine, évidemment, pour faire prendre le pain, ça je vois plus le nom.
La levure,
qui ont augmenté de 30 à 40%, et pire encore, le beurre a augmenté de 70% alors qu'il est produit en France. C'est vous dire à quel point il y en a qui en profitent.
Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est bien avant la problématique de l'électricité. Donc c'est une colère qui gronde depuis longtemps.
Exactement. Mais là, vous parlez de quoi? De la flambée des prix?
On parle de la flambée des prix par les spéculateurs. Donc moi, je dis et réclame depuis le début, si le gouvernement avait un petit peu d'oreille, il faut bloquer les prix. Il ne faut plus laisser les spéculateurs se foutre de la gueule de la population, et d'une. Et de deux, les boulangers qui sont quasiment, on estime qu'il y a 3 500 boulangers qui vont peut-être mettre la clé sous la porte, on n'a pas encore les chiffres, ça va arriver, sont les premiers impactés. Si vous n'avez plus de boulangerie, si vous n'avez plus le cœur de ce qui nourrit le minimum syndical, des gens qui n'ont rien, achètent du pain. Si on n'a plus ça, il va rester quoi? Vous mangez les pâtes sans eau? Parce qu'il faut les cuire, les pâtes. Hein. Donc, c'est vous dire.
Mais l'eau, elle est en train d'augmenter, elle aussi. Donc, bientôt, mettre de l'eau, ça va être compliqué.
Et simplement, moi, j'ai envie de dire un truc pour être très clair, c'est que l'excuse de la guerre d'Ukraine, qui est une excuse grossière, violente et vulgaire.
C'est un alibi.
C'est un alibi que je n'accepte pas. Donc, j'en appellerai, moi, tous les Français, et je vais faire un hashtag dans ce sens-là. Stoppons l'inflation en obligeant Zelensky à négocier avec les Russes pour que l'énergie russe revienne en Europe. Comme ça, la spéculation s'arrête. Si on n'oblige pas Zelensky à arrêter cette guerre inutile avec Poutine, que les deux soient envoyés à la table de négociation pour que Poutine puisse vendre son énergie en Europe parce qu'il est obligé de le faire, on ne s'en sortira jamais.
Vous imaginez que là, Emmanuel Macron envoie des chars légers en Ukraine. Donc, voilà, pour nourrir, pour entretenir la guerre et surtout l'industrie de la guerre, on a les moyens. Alors qu'à côté de ça, les Français n'ont plus les moyens de rien. C'est un paradoxe que plus personne ne peut comprendre.
La situation, est-ce qu'elle est dramatique concernant cet appel, le cri d'alarme des boulangers Thierry-Paul Valette?
Bien sûr qu'elle est dramatique.
Là, on peut s'inquiéter, là. Hein.
Mais on s'inquiète parce qu'on touche à un symbole. Comme tu le disais, c'est un symbole. On touche à l'essence même de ce qui fait notre culture, notre patrimoine, notre raison d'être, finalement. On touche à notre identité. Ça va encore beaucoup plus loin. On dépouille les Français, on leur vide les poches, et après, on les dépouille de leur propre identité. C'est inacceptable. C'est quelque chose d'inacceptable. Et c'est pour ça que là, les Français sont non plus pris qu'au porte-monnaie, mais dans leur chair et dans leur tripe.
Est-ce que c'est aussi ça le retour des gilets jaunes? C'est aussi parce que il y a ce cri d'alarme des boulangers?
Entre autres choses. Ouais.
Oui, mais pas que, parce que les gilets jaunes ont toujours été présents tous les dimanches, tous les samedis, tous les mois. Ils ont toujours été là. Simplement, on n'a pas voulu les écouter depuis 1 ou 2 ans.
D'ailleurs, j'ai apprécié une chose importante, parce qu'on l'oublie toujours.
Gamal Abina.
La plupart des manifestations qui ont eu lieu sont des revendications syndicales de la fonction publique. Hein. Mmh. C'est pas le privé qui manifeste. Pour la première fois, les mouvements privés, donc les gilets jaunes, qui font partie du secteur privé, ont manifesté. Pourquoi on sait que c'est le privé? Parce qu'ils manifestaient le samedi, ils pouvaient pas s'amputer d'un salaire dans la semaine. Ça dit des choses quand même. Donc moi, j'aurais dire que si des mouvements spontanés, sporadiques sont en train de se faire, parce qu'il y a des groupes qui s'organisent sur Facebook, hein, un peu comme ce qui s'est passé
on voit.
Les réseaux sociaux ont complètement changé la physionomie des mouvements
Et donc ces mouvements pré-révolutionnaires, si on continue comme ça, c'est ce qui va arriver. arriver. Ils sont en train de s'organiser, ils vont finir par coaliser, parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de ciment commun. Mais ciment, c'est finalement l'inflation. Si jamais cette inflation qui frappe tout le monde violemment finit par créer un ciment commun dans tout un tas de corps de métiers qui ont rien de commun, à ce moment-là, on peut s'inquiéter sur ce qui va arriver en France.
Donc, si je vous écoute parler de la flambée des prix, justement, la facture d'électricité a été multiplié par 10, 12.
10, 12 pour certains corps de métier. Alors, ils
prétendent. Pour les professionnels et moins pour les particuliers, mais enfin, tout de même, les particuliers, c'est quand même énorme.
Le parapluie qu'on nous propose est ridicule. Ce qui me fait rire, c'est quand on parle en pourcentage. Quand l'État dit on va donner 20% d'aide aux professionnels, il oublie que l'augmentation était x 800. Donc, quand vous donnez 20% sur 800, c'est une goutte d'eau ridicule qui n'absorbe rien. Ensuite, je trouve ça intolérable, je le dis clairement, intolérable, que la France, pour des signatures ridicules à l'international, en Europe en l'occurrence, continue à indexer le prix de l'énergie qui ne lui coûte rien. C'est l'énergie 80% à base de renouvelables et du nucléaire. C'est ça, le socle énergétique français. Il continue à imposer un prix élevé alors que l'énergie, l'électricité ne coûte rien à la fabrication en France. Donc il va falloir réfléchir à ça. Pourquoi M. Macron, qui est parti faire l'intéressant devant Biden et qui est revenu sans rien dans les poches, n'est pas capable de renégocier avec l'Europe ces accords qui ne tiennent pas la route vu la situation?
Alors, on peut le dire, je vous pose la question, messieurs, est-ce que, effectivement, cette colère est justifiée quand on parle, je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure, flambée des prix, on parle du panier des courses, on parle aussi également de l'électricité, on parle du gaz, vous avez parlé, Thierry Paul Vallet, de l'eau, de tout ça, effectivement, est-ce que aujourd'hui cette colère risque de... les syndicats, il y en a un tout à l'heure qui disait que le climat social se réchauffe.
Je veux dire, les syndicats, ils sont en jeu. Et là, ça se passe en dehors des syndicats. Ils n'ont plus le contrôle sur ce qui est en train de se passer. C'est évident. On a beau les voir encore Laurent Berger essayer de sortir de Matignon, de l'Élysée, de négocier. Ça ne va rien apporter. Ça va rien changer au cours de l'histoire. Mais malheureusement, ce qui est triste à dire, tout ça, va apporter de la violence. Et moi je dis...
C'est quoi cette violence?
La violence des gens qui vont s'exprimer. Mais ils vont s'exprimer non plus par la parole.
Ils vont quoi? Ils vont... Qu'est-ce que vous voulez, ça se traduit par quoi?
Ça va se traduire que dans la rue, malheureusement, il y aura des black blocs. Dans la rue, les gens risquent... Voilà, ils vont s'en prendre aux forces de l'ordre, certainement. Il y a des gens qui vont s'en prendre aux forces de l'ordre. Il y a des gens qui vont tout casser parce qu'ils se disent qu'il n'y a que quand on casse qu'on a des réponses. Et j'ai envie de dire que moi, je n'ai jamais cautionné légitimé la moindre violence, quelle qu'elle soit. Par contre, j'ai peur de moi-même. Pourquoi? Parce que maintenant, je commence à comprendre et à me dire, la violence, elle commence à être légitime, parce qu'en face de nous et en face d'eux, c'est violence qui se passe. C'est une violence sociale qui est inouïe, qui est extrême, qui est inédite. C'est terrible d'en arriver là, moi qui suis pacifique.
Gamal Abina.
Ça, c'est évident. La première manifestation, j'avais été à l'époque dans une télévision étrangère, et on m'a posé la question sur la première manifestation Gilets jaunes, où j'étais interrogé le début. Qu'est-ce que vous pensez qui risque de se passer, puisque la première manifestation s'est bien passée, c'est rien passé. J'ai dit malheureusement ils n'ont pas été entendus et il y a fort à parier qu'il y aura des violences. Parce que quand on n'est pas entendu et qu'on dit cause toujours, ça énerve. Et une semaine après, on a vu l'état des Champs-Élysées. Je veux dire simplement, c'est que la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les autorités qui dirigent ce pays, en donnant des petites sucettes pour nous endormir, pensent que supporter l'inflation qui a une moyenne de 10% par mois, et la vraie inflation, la réelle, pas l'inflation sur une moyenne globale, parce que l'augmentation du prix des loyers, ça n'a pas augmenté. Par contre, sur le panier moyen, effectivement, c'était l'explosion des prix, ça va de 40 à 70%. Eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour satisfaire la population pour qu'elle ne tombe pas dans la violence ou dans le désespoir? Il n'y a pas pire que le désespoir. Quand on est désespéré, on n'a plus rien à perdre. Quand on n'a plus rien à perdre, on est encore plus violent que le violent qui manifeste. Donc la question se pose là, et moi je dis simplement, c'est qu'ils devraient peut-être commencer un petit peu à écouter, arrêter de prendre ce ton arrogant qu'ils affichent. Je prends l'exemple très simple, vous avez un président de la République qui vous fait des vœux, et qui vous parle de quoi pendant ses vœux? Soutien à la guerre d'Ukraine, ce qui est minable. Il n'a pas à dire ça, il n'est pas co-belligérant normalement. Et surtout, il vous dit quoi? On va faire cette réforme. Et il vous parle en plus de l'âge. Je rappelle qu'il avait parlé 63 ans, maintenant c'est en train de négocier sur 65. Et le syndicaliste.
Il a pris 55 ans, j'aurais même pas les gérer.
Tout à fait.
Le
syndicaliste qui est sorti, il est sorti non pas parce que. Qu'il y a l'inflation autre forme, mais parce qu'il y a une réforme des retraites. Donc là, on n'est pas connecté. Les têtes pensantes ne sont pas connectées.
Vous me permettez une belle transition. Justement, je voudrais qu'on parle de la réforme des retraites. Elisabeth Borne, justement, va lâcher un peu plus parce qu'elle rencontre, vous avez parlé, Thierry Paul Vallet et vous-même, Gamal Abina, des leaders de syndicales, dont Laurent Berger, qui lui, quand il sort de Matignon, il dit qu'il n'y a pas une bonne nouvelle pour Borne. Alors, cette réforme des retraites, est-ce finalement, Est-ce qu'elle va se faire et puis sous quelle forme, Thierry Paul Valette?
Moi, j'ai envie de dire que dans l'esprit des gens, quand on parle de réforme des retraites, on pense tout de suite à l'âge. Partir à 64 ans, après 65 ans, on pense à ça. Mais la réforme des retraites, c'est beaucoup plus large et ce n'est pas que ça. Et ça, on n'en parle pas. Bon, maintenant, quant à la première ministre Elisabeth Borne, la réforme des retraites, c'est pas un totem. Bien sûr que si, c'est un totem. C'est un totem. Sauf que c'est inadmissible dans ce contexte-là. Dans ce contexte social, il y a des priorités. La réforme des retraites n'est pas une priorité. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est dangereux, voire criminel. C'est criminel que de jouer à ça.
Gamal Abina.
Oui, parce que quand ces syndicalistes, alors rappelons quand même que c'est le CFDT. En règle générale, le CFDT, c'est plutôt le toutou, ils ne sont pas méchants. Hein. Ils par sortir, on ne va pas négocier, c'est qu'ils sentent bien qu'il va falloir se raccrocher avec sa base. Ensuite, surtout parce que, effectivement, je rejoins complètement notre ami Thierry, qui dit que ce n'était pas une priorité. Il a raison. C'est une obsession chez M. Macron depuis le début. Je ne sais pas pourquoi il a cette obsession de totem, en l'occurrence, c'est un totem. Mais ce n'est pas une priorité. Aujourd'hui, il y a des situations calamiteuses qu'on est en train d'enregistrer.
Il veut marquer son histoire, peut-être.
On fait ça depuis le début.
Oui, il fait que ça. Mais on ne marque pas l'histoire avec une réforme qui va mettre. Et là, maintenant, je reviens sur les fondamentaux. Il ne se réclame pas du gaullisme, on l'a bien compris. Mais tout de même, c'est quand même le Conseil national de la résistance qui a mis en place ces régimes spéciaux. Lui, ce n'est pas le fait de l'âge. L'âge, il s'en fout un peu en réalité. Il va conseiller 63 ans. Ce qui l'intéresse, c'est de niveler toutes les retraites au même niveau dans la même caisse. Faire en sorte que cette caisse qui est excédentaire, rappelons-le tout de même, elle n'est pas déficitaire, cette caisse soit viable pour pouvoir alimenter d'autres caisses dont on ne parle pas. Particulièrement, la plus grande réforme qu'il aurait dû conduire, c'est celle de la renégociation des intérêts à l'international, à savoir l'endettement de la France. On paye un taux d'intérêt qui est le troisième poste d'État quand même. Hein. Ça absorbe des sommes faramineuses. Mmh. Il devrait renégocier ou geler le règlement de cette dette pour pouvoir libérer des fonds. Il ne le fait pas.
Justement, on revient, on va marquer une courte pause. Et on se retrouve tout de suite avec justement cet avertissement de Laurent Berger. Vous faisiez référence à ça. Je voudrais juste qu'on s'attarde un peu plus sur la réforme de retraite. Comment, sous quelle forme? Est-ce que, évidemment, c'est une priorité, comme vous le dites, vous, Thierry Paul Valette, mais surtout cet avertissement de Laurent Berger. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h16, bientôt 17 précisément. Les informés, c'est aussi avec Thierry Paul Valette, mais également aussi avec Gamal Abina. Chers amis auditeurs, nous continuons de parler, dernière ligne droite, justement, on continue de parler de la réforme des retraites, mais également ce sujet aussi concernant la polémique d'Omar Sy et ses déclarations. On reviendra évidemment sur ses propos. Alors, d'abord, avertissement de Laurent Berger, a-t-il raison? Cette réforme des retraites, évidemment, est-ce que vous pensez que les concertations vont déboucher prochainement ou pas? Et puis, l'hémicycle avec cette opposition existe-t-elle encore? Gamal Abina.
L'hémicycle avec l'opposition ou la réforme des retraites?
La réforme des retraites, oui.
Ok, donc la réforme des retraites va être, c'est une sorte de marronnier maintenant, hein, on ne parle que de ça. C'est pas d'hier, ça fait 20 ans qu'on en parle. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des choses beaucoup plus graves et que s'arc-bouter sur une position comme celle-là, ça devient ridicule. Et je pense qu'effectivement, le 49-3 qui est devenu une arme de destruction massive permanente, qui est antidémocratique, ça a été quand même pensé par un homme qui était militaire, hein, rappelons quand même que c'est De Gaulle, 49 alinéa 3, donc c'est ça, qui force la décision s'il n'obtient pas ce qu'il veut, a été utilisé de façon excessive et jamais autant de cette façon. Donc on est vraiment sur un record d'utilisation du 49-3 pour dire, et il l'a dit de façon clairement, M. Macron, il n'est pas bête, il ne s'est pas caché à son petit doigt, il a dit simplement, les Français ont décidé, j'ai bien entendu, mais vous vous débrouillez, moi je fais ma politique, voilà ce qu'il a dit. Donc le Parlement peut parlementer si ça les intéresse, ils s'en foutent complètement. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut continuer à avoir un régime parlementaire qui n'existe plus, avec des lois qui sont imposées du haut, tout le temps, avec un calendrier qui ne consulte personne, ni les partenaires sociaux, ni la population, ni personne, et avec un homme politique qui manifestement s'intéresse à des questions internationales qui sont plus grandes que lui, alors qu'il devrait s'intéresser aux questions nationales qui sont à son niveau. On se pose la question.
Thierry Paul Valette.
Moi j'ai envie de dire que finalement, la problématique de partir à la retraite un an plus tôt, d'une certaine manière, c'est pas si grave que ça. C'est comme payer des impôts. C'est pas si grave. Si on paie des impôts, c'est qu'on travaille. Et si on voit le fruit de nos impôts, si on voit à quoi ça sert et qu'on a un retour sur l'imposition, on accepte de payer les impôts. J'ai envie de dire, la réforme de la retraite, bon, il y a beaucoup de mesures, mais quant à l'âge légal, finalement, oui, les gens travaillent un an de plus. C'est pas ça qui pose problème. C'est qu'on les fait travailler un an, voire deux ans de plus, sans changer leurs conditions de travail. C'est ça aussi. Ouais. C'est ça, voilà. Donc, avant de faire cette réforme, il aurait déjà été nécessaire de travailler sur la pénibilité, la souplesse. On a vu qu'avec le Covid, et même maintenant, on a mis en place le travail à distance. Oui. On a assoupli les conditions de travail. C'est dans cette direction-là qu'il aurait fallu s'engager. Et après, quand on a mis en place toutes les conditions nécessaires dans un contexte social favorable, on peut discuter de la réforme des retraites. Mmh. C'est audible, c'est envisageable, bien évidemment, mais pas là, comme ça, de cette manière-là, brutale, imposée, avec un totem, avec un gouvernement qui est dans le déni de tout. Voilà, là non.
Bon, écoutez, messieurs, nous allons juste aborder ce dernier sujet qui nous concerne, c'est celui d'Omar Sy. Vous avez suivi voilà, absolument. Tout à l'heure, j'ai eu en tout début d'émission la vice-présidente du CRAN, justement, Omar Sy, quand il fait cette déclaration, quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Alors, justement, parlons-en. Tout à l'heure, vous savez, mon invité, la vice-présidente du CRAN, parlait de deux poids, deux mesures. Elle disait, quand c'est en Afrique, c'est le deux poids, deux mesures, évidemment, quand on fait référence à la guerre en Ukraine. Vous répondez quoi, justement, avec cette polémique et les déclarations d'Omar Sy, Thierry-Paul Valette?
Moi, tout d'abord, je salue le CRAN, le travail que fait le CRAN, et notamment son ancien président, qui est maintenant toujours président honorifique, parce que elles font partie, à mon sens, des associations comme SOS Racisme, avec lesquelles j'ai personnellement travaillé quand j'avais l'association.
Patrick Lozès.
Voilà. Et qui sont là aussi pour expliquer que finalement ce qu'a dit Omar Sy, je pense qu'il y a une manière de dire les choses. Mmh. Il a peut-être exprimé avec ses mots de manière maladroite, et après, ben forcément, c'était une traînée de poudre et ça a été détourné. Mmh. C'est ça. Mais bien évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que il est vrai que la guerre en Ukraine, dans notre entendement, c'est l'Europe. L'Europe, ça nous fait penser à la Seconde Guerre mondiale. On se sent concerné. Les portes de l'Europe, les problématiques qui se passent en Afrique, c'est tellement loin en distance, même si Alger n'est qu'à 2 heures, j'ai envie de dire.
Mais on se sent à 30
voilà,
minutes.
Hein. Mais exactement. Mais dans notre quotidien, dans le quotidien des gens, les gens se sont pas réellement concernés. Et ça fait tellement d'années qu'il y a toutes ces problématiques-là qui sont en Afrique, qui est une véritable cocotte-minute. Il y a tellement toutes ces problématiques qu'on y est habitué. Mmh. Avec l'Ukraine, on n'y est pas habitué. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mmh. Voilà. Donc, ça explique pas tout, mais ça permet aussi de l'expliquer.
Ça permet aussi de l'expliquer. Voilà, vous entendez Thierry-Paul Valette, Gamal Abina?
Moi, ce que j'entends, c'est que c'est les fachos du Front National qui ont ouvert leur bouche les premiers. C'est inacceptable. Ils n'ont pas à parler. Il y a à peu près 8 millions de morts en RDC depuis 20 ans. Tout le monde s'en fout. Il aurait dû donner ces chiffres-là. 8 millions de morts. Des centaines de milliers de femmes violées par mois. Voilà la réalité. Tout le monde s'en fout. Il y a eu 500 000 morts au Rwanda, dont les Français ont été partie prenante, puisqu'il y a l'affaire du fils de Mitterrand. 500 000 morts. Tout le monde s'en foutait. Personne n'est intervenu. Et là, parce que la race blanche, j'utilisais le terme des dessins, il n'y a pas de race, hein, mais j'utilise le terme qu'eux utiliseraient. La race blanche, qui n'est même pas d'ailleurs occidentale, elle est orientale. C'est l'Europe orientale. Des Slaves orthodoxes, eh bien, ils ont trouvé qu'il y a peut-être des liens entre eux et cette race. Ils ont trouvé une forme d'identification qui est extrêmement malsaine. Quand Omar Sy utilise les termes, il n'utilise pas les termes jusqu'au bout. Il a raison. Quand c'est des Noirs ou des Arabes qui meurent, tout le monde s'en fout. 5 millions d'Irakiens assassinés, tout le monde s'en fout. Quand 250 000 Syriens meurent, tout le monde s'en fout. Quand un enfant syrien se retrouve sur une plage avec la tête de l'autre côté, on ne peut pas l'identifier, et qu'il a un petit short comme ça, comme n'importe quel petit enfant occidental, là, on a un mouvement d'identification. La problématique, ce n'est pas de dire que Omar Sy était bon, il a raison. Effectivement, quand c'est l'Afrique qui meurt, tout le monde s'en fout. Quand elle meurt de faim, quand elle meurt de guerre...
La vice-présidente du CRAN, quand elle parle de deux poids, deux mesures, elle a raison.
Alors moi, j'irais double standard, j'aime pas le deux poids, deux mesures, c'est devenu un mot magique. Double standard, c'est dans un cas, vous êtes des sous-hommes, d'accord? Et dans l'autre cas, vous êtes des hommes, quand vous êtes européens. Eh bien, je dis que quand on a assassiné 5 millions de personnes en Irak... par les bombes américaines, pas par autre chose, des bombes américaines, qu'ensuite on a démembré le pays, qu'ensuite on a détruit la Syrie, qu'on a détruit la Libye, tout le monde s'en fout la Libye quand même, 250 000 morts aussi, hein. C'est des chiffres faramineux, tout le monde s'en fout, parce que ce sont des bronzés. Alors je veux bien qu'on nous sorte les violons pour faire croire qu'on a une larmichette pour les Ukrainiens, évidemment qu'on condamne tous la mort, les morts et les morts inutiles en Ukraine, et je suis le premier à dire qu'il faut arrêter ce bain de sang inutile et arrêter d'alimenter la guerre. Mais... de là à faire croire que c'est choquant qu'un homme africain parle de son continent dont il sait qu'ils ont été saignés et qu'on le compte par dizaines de millions de morts sur 60 ans, on est quasiment à 50 ou 70 millions de morts, et expliquer que vous vous en fichez, il a raison, c'est pas discutable. Et ceux qui ont réagi, je le rappelle quand même, la polémique n'existe pas, puisque c'est l'extrême droite qui s'excite. Et bien quand l'extrême droite s'excite, qu'elle regarde ses copains de Bandera du côté de l'Ukraine, parce que ça les dérange pas de voir qu'il y a aussi des croix gammées qui sont brandies là-bas. Donc deux poids deux mesures, effectivement, on peut le dire. Moi je dis double standard.
Thierry-Paul Valette, ce que dit Gamal Abina, c'est saisissant.
Ben oui, mais
oui
bon, c'est ça la réalité. C'est ça que la réalité. C'est qu'on vit dans un monde, malheureusement, et on vit pour certains dans le pays, où la couleur de peau, c'est la couleur de peau, et la vie de quelqu'un qui est noir vaut moins cher que la vie de quelqu'un qui est blanc. C'est terrible, mais c'est une réalité.
Donc vous vous accordez la raison au Marty.
Mais moi, je lui donne raison, bien évidemment. Ouais. Après, les manières sont maladroites. Mais je vais aller encore plus loin. Je vais aller encore plus loin. Le gouvernement d'Emmanuel Macron, je fais pas une fixette sur lui, mais le problème à jouer comme il le joue, à ne pas entendre les gens, à ne pas entendre la colère, à ne pas entendre les conditions de vie dans lesquelles vivent les Français. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait monter le Front National, ça fait émerger des gens comme Zemmour, ça dresse les uns contre les autres, et on sait très bien dans ces moments-là, quand un pays se radicalise, il se ferme sur lui, quand il se ferme sur lui, il devient encore plus raciste, et on est en moins enclin à regarder ce qui se passe chez nos voisins africains ou ailleurs. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. De verre, à un moment donné, le plafond de verre, il va exploser. On pourra plus jouer la carte du Front Républicain. Ça sera cuit et foutu.
J'avais ajouté quand même que l'indécence de ces gens d'extrême droite qui ont vu un type de 69 ans assassiner froidement des civils à Paris, je parle des Kurdes, mais ils cherchaient les étrangers. C'est pas les Kurdes qu'ils cherchaient. Ils voulaient tuer du bougnoul. De son point de vue, un Kurde, ça reste un bougnoul. Ça, on ose critiquer Omar Sy, qui rappelle quand même qu'il y a des morts en Afrique. Il a juste fait ça en disant vous avez une préférence pour les races, entre guillemets, et qu'une semaine avant, il y a un type qui assassine des gens, deux hommes et une femme. Ça, c'est les dérange moins. On les a pas entendu, il n'y a pas eu de polémique. Ils auraient dû condamner. Est-ce qu'ils condamnent? Est-ce qu'on les entend, ces gens-là? On les entend pas parce que ça les arrange. Quelque part, on peut tuer un arabe à Paris, un turc, un noir, c'est moins grave qu'un ukrainien qui aurait été assassiné à Paris.
Vous pensez vraiment ce que vous dites?
Je pense vraiment que ce sont des racistes. Je pense que le suprémacisme blanc qui a validé l'idée qu'un homme qui naît noir de sa naissance à la mort doit être esclave et qu'il a le droit de mourir en Afrique, c'est normal, c'est intolérable.
Ce qu'a dit Omar Sy, beaucoup de Français le disent, beaucoup le pensent, et c'est même souvent échangé sur des plateaux de télé comme CNews. Simplement, Omar Sy, il est noir. Et puis j'ai envie de dire quelque part, c'est un peu la presse aussi, pas toute la presse, une certaine forme de la presse. On entend ce qu'on veut entendre, on relaye ce qu'on veut relayer, et on met l'éclairage et la loupe sur ce qu'on a envie, pour créer des polémiques aussi. C'est un peu facile, voilà, ça faut le dire.
Eh ben merci messieurs, merci. Débat passionnant parce que évidemment on a très.
Juste à m'ajouter.
Oui, bien sûr. Non, allez-y, vous avez.
Des guerres en Europe, il n'y a pas eu que celle-là. Il y a eu la Yougoslavie, on l'a oublié parce que la Yougoslavie n'était pas de bon côté. Oui. Des guerres en Europe, je rappelle quand même que ce qui s'est passé en Tchétchénie, c'est l'Europe aussi, orientale, mais l'Europe. Ça choquait personne de voir les 300 000 morts en Tchétchénie. Pourtant, à ce moment-là, il aurait fallu intervenir. Il n'y avait pas d'armée en Tchétchénie. Il y avait juste des fedaïnes, entre guillemets, des combattants qui se battaient contre la même Russie de Poutine. Donc, je veux bien tout entendre. Des guerres en Europe, il y en a déjà eu un paquet. Sauf que ces Tchétchènes étaient un peu trop bronzés, donc ils ne méritaient pas d'être visible.
Merci Gamal Abina. À vous plaisir, à très bientôt.
Toujours plaisir partagé.
Oui, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette année?
La même chose, moins de prix élevés, surtout pour commencer, la santé évidemment, et puis le bonheur pour tous.
Et vous aussi, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, mon cher Thierry Paul Valette?
Je dirais bien la santé, mais surtout un bon rassemblement pour samedi.
Un bon rassemblement pour samedi. L'ancien leader des Gilets jaunes, justement, c'est le retour. Et on continue d'en parler demain, mais aussi après-demain. Merci infiniment Thierry Paul Valette. Et au plaisir. À la réalisation, c'était Anthony. Merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre quotidiennement et à faire part de votre opinion. Et c'est une excellente chose. Je vous en remercie infiniment. Ça se passe ici. Dites-le. Dans votre entourage, partout, inondez tout cela, évidemment. Et venez, c'est ici que ça se passe, aux informés, au 01 53 48 3000, de 18h à 19h30. Bilal Nenman vous donne rendez-vous de 20h à 21h, Vanessa à 21h, jusqu'à 23h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir, mais surtout, c'est quoi, surtout ?
On ne lâche rien.
À demain !
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.